Très bien, bah, bienvenue de nouveau. On va reprendre le colloque avec donc la première table ronde qui réunit donc des personnalités, des acteurs du culte et qui est consacrée à l'exercice du magistère religieux. Et elle va être animée par Monsieur Youssouf Sangaré, qui est maître de conférence à l'université Clermont-Ferrand. Donc, c'est une table ronde qui va durer 1h45. Et le but, contrairement aux communications scientifiques, c'est d'avoir là des témoignages et une parole un peu plus libre. Voilà.
Donc c'est bon, on commence ça. Bismillah, c'est ça? Alors, juste pour prévenir les personnes qui sont là autour de la table, donc moi je viens de Clermont-Ferrand, une ville où les croisades ont été lancées. Donc voilà, mais je viens en paix, et donc il n'y a pas de problème si vous respectez le temps.
Moi je viens de Poitiers, moi je viens de Poitiers.
Ah. Évitons les conflits. Donc, pour commencer en fait cette table ronde, ce que nous allons faire un premier tour de table où les personnes ici vont se présenter, essayer de présenter leur parcours, et puis après on fera un second tour de table en fait autour de quelques thématiques, et où les intervenants pourront échanger sur ces thématiques là entre eux, et puis après on ouvrira les discussions avec les personnes dans la salle sur les questions qui ont été soulevées ou qui n'ont pas été abordées. Et donc pour commencer, je vais demander en fait un premier, et surtout quand j'ai lu en fait la petite biographie des personnes autour de cette table, je vais commencer par Maïmouna Dramé, et en lisant sa biographie, j'ai été à la fois frappé et émerveillé en découvrant en fait à la fois une combattante et un parcours passionnant, passé par la sociologie, les sciences islamiques, et Maïmouna Dramé est titulaire d'un master en gestion humanitaire et développement des ONG et des associations. Et elle est aussi engagée dans le milieu associatif et s'intéresse à des questions importantes de nos jours, pas seulement en France, mais au-delà, telles que la question féminine en islam, l'interculturalité, etc. Donc je vais laisser la parole à elle de présenter davantage son parcours et tafadoli.
Alors bonjour, je suis Maïmouna Dramé. Je suis donc titulaire d'un master en gestion humanitaire et développement des associations. J'ai également un parcours de sociologie et en sociologie également politique et tout ce qui est sociologie des religions. J'ai par ailleurs donc participé beaucoup, j'ai été amenée à faire ce master-là plus parce que j'étais dans le milieu associatif, dans les milieux, donc tout ce qui est mosquée et autre chose, et que je trouvais qu'il y avait bien entendu quelque chose à faire en fait au niveau des musulmans qui manquaient. Donc je me suis engagée dans cette formation là en parallèle. Donc j'ai étudié donc à l'USH de Paris pendant de longues années, où j'ai étudié donc l'arabe, le Coran, les sciences islamiques et autre chose. Et ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle en tant qu'assistante sociale, pour lequel je m'occupe des demandeurs d'asile actuellement. Donc voilà ce que je peux dire à peu près. Et aussi, je suis la secrétaire générale de l'association qui s'appelle Afrique Idée. Donc ce matin, on a eu beaucoup de confréries, pour ne pas dire, qui est là pour la plupart, donc on va dire non confrériques, avec donc leur représentation plus, on va dire, soninké, et pour lequel on prône l'image, en tout cas, on prône l'image de l'islam à travers, en tout cas, notre africanité, si on peut dire, comme ce matin, ça a été plus ou moins relevé, l'arabisation de l'islam. Là, c'est plus à travers plus notre regard en tant que... Donc, il y a aussi bien donc tout ce qui est Afrique subsaharienne, donc des Sénégalais, des Maliens, des Comoriens ou autre chose. Et on essaye de travailler à une vision différente de l'islam qui peut être ici présente en France. Voilà à peu près.
Donc en fait, votre public, d'une manière générale, c'est plus un public de soninké, c'est ça, ou...
Voilà, alors un public de soninké, on est en train d'élargir également, donc on a un public de Wolof également, et de Peul. Et c'est vraiment concentré plus sur donc, l'Afrique, donc tout ce qui est Mali, Sénégal, Gambie, l'Afrique de l'Ouest.
D'accord, ok. Voilà. On verra tout à l'heure, en fait, du coup, dans ce cadre-là, quel accueil vous bénéficiez auprès d'autres publics. Et juste pour continuer ce tour de table, je vais aussi une autre parcours qui est faite de formation pluridisciplinaire. Là, je parle de Madame Ndeye Pela, Ndeye Pela. Et à la fois.
C'est pas un blanc qui écorche mon nom.
Et donc un parcours à la fois dans le cadre de la théologie musulmane et en langue arabe et mais aussi en sciences sociales des religions, donc à l'IPHU, et en comptabilité. Et elle est aussi militante antiraciste et afroféministe et membre fondatrice du collectif Maman Toutes Égales, et qui est un collectif qui lutte contre l'exclusion des mères voilées, hein, dans les sorties scolaires. Et elle a participé à de nombreuses manifestations, notamment au groupe des femmes dans la mosquée, qui était en 2013, et qui se battait pour le fait que les femmes soient reléguées au fond de la mosquée, et notamment dans la grande mosquée de Paris. Et aussi, donc, son engagement, en fait, se manifeste aussi par dans le champ des questions de la relecture des textes scripturaires de l'islam, et notamment toute l'image, en fait, qui est véhiculée par ces textes-là. Et donc, je vous laisse approfondir davantage, en fait, votre parcours et le type de milieu auquel vous êtes confronté dans le cadre de votre engagement, avec quel type de public, etc.
Alors, du coup, je ne sais même plus quoi ajouter après ça. Mon parcours a été fait. Donc oui, je m'appelle Ndeye Pela. Donc je suis militante afroféministe et antiraciste. Hein. Mon militantisme a commencé en 2003, à la veille du vote de la loi de 2004 qui interdit le foulard à l'école pour les jeunes filles. À partir de ce moment-là, je ne sais pas, j'ai senti dans mes tripes quelque chose se passer. En même temps, j'ai trois filles. Donc je me suis engagée, en fait, contre cette loi. Nous n'avons pas pu faire interdire cette loi, mais voilà, le combat continue. Et par la suite, je me suis engagée, nous avons créé le collectif Maman Toutes Égales, qui luttait pour soutenir, en fait, les mères d'élèves qui sont exclues des sorties scolaires parce qu'elles portent le foulard, alors qu'elles sont seules engagées dans les écoles. Sinon, je suis afroféministe aussi, hein. C'est dans le sens où, en fait, en France, le féminisme qui se dit universel est blanco-centré. Et du coup, quand on est une femme noire, en fait, c'est pas que dans l'islam, chez les Arabes, qu'on est invisibilisé, c'est qu'en tant que femme noire aussi, dans la société, dans les sociétés occidentales, en fait, on est très très invisibilisé. Mais ça, je pense que plus tard, j'ai quelques trucs, peut-être des détails à lire un peu plus tard.
Et dans le collectif, en fait, Maman Tout Égale, vous êtes, c'est formé par, il y a quel type de public, en fait, avec qui vous...
Ben, en fait, principalement, ce collectif est né d'un collectif plus ancien, justement, de 2004, qui s'appelait École pour tous et toutes. Et quand on l'a créé, il y avait principalement donc des militants, et puis on a fait venir des mères d'élèves, principalement de Montreuil, mais il y en avait un peu partout de la région parisienne aussi, qui étaient exclus justement des sorties scolaires. Donc souvent on se réunissait sur Montreuil pour essayer de travailler avec le CCIF, pour tenter le dialogue quand c'était possible avec les chefs d'établissement pour réintégrer ses parents, et quand ce n'était pas possible, on essayait aussi la voie juridique.
Okay. Donc merci, on va continuer, en fait, le tour des tables, et là, cette fois-ci, je vais passer à Mohamed Saïd Assoumani, qui a une formation à la fois en traduction et en commerce. Il a un doctorat de traduction et de commerce et de commentaires, en fait, du Coran. Et aussi en langue comorienne. Il enseigne la langue comorienne à l'INALCO à Paris, et il enseigne aussi les sciences coraniques et l'exégèse du Coran à l'Institut Avicenne à Lille. Et il est aussi aumônier dans la région Hauts-de-France. Donc je vous laisse développer davantage par rapport à votre parcours, monsieur.
Okay, merci beaucoup. Je tiens à saluer tout le monde. Et c'est vrai que après ça, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai quand même développé un petit peu. Je fais une thèse sur la traduction et le commentaire du Coran, la manière dont les maîtres religieux aux Comores ramènent l'explication du Coran de l'exégèse arabe vers le comorien. Qui sera d'ailleurs publié le mois prochain, une partie de la, toute la sourate Baqara, publiée en français et en arabe. Ah, en comorien plutôt. Et par ça, j'enseigne le comorien ici à côté, à l'Institut Rialco. Et je suis j'enseigne aussi les exégèses du Coran et les séances du Coran à Lille, où je suis imam. Je interviens, je fais 3 vendredis par jour. Je ne sais pas si c'est valable, mais si je le fais. Un vendredi à la mosquée et 2 vendredis à la prison. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est tout cela. Et en même temps, je tiens une école coranique dans la région de Lille. J'enseigne pas mal de moines différents, ou bien d'ici ou d'ailleurs. Voilà, merci.
Et comment en fait vous êtes devenu aumônier? Il y a une...
Pour devenir aumônier, bah, il faut s'y intéresser à ceux qui sont derrière les barreaux, aller les voir, et puis il faut une formation. Il faut être accepté, et pour devenir aumônier, c'est pas une fonction, vous n'êtes pas payé, hein. Vous faites un travail de bénévolat. Et vous risquez votre vie puisque, et celle de votre famille, puisque vous êtes suivi, poursuivi derrière par la police. On vous donne 6 mois, on vous dit carrément, on va vous sculpter votre vie. Je vais venir des gens de différentes façons chez moi et auprès de moi. Et jusqu'à présent, ça fait 5 ans que je fais le travail. Bon, voilà, donc je suis dedans. Et pour le devenir, il faut solliciter auprès de l'aumônier national qui est nommé par le président de la République. Et après, il faut avoir le diplôme, connaître un peu la religion et puis pouvoir converser en français. Après, le gouvernement Sarkozy, Hollande, avait imposé à tous les aumôniers, même ceux qui ont déjà une formation, de faire ce que j'appelais une formation de vivre en France. Comment ils disent ça? Ils ont dit la laïcité, quoi, le droit musulman dans un espace laïque. D'ailleurs, mon frère, je rappelle, en parle bien dans son ouvrage. Et donc, même étant docteur, vous êtes obligé de faire cette formation, où on vous apprend tout ce qui est droit, un tout petit peu. Alors, bon, ils avaient dit, vous faites ça pour devenir, à peu près, on va professionnaliser votre métier. Et en réalité, c'était une montagne qui a couché une toute petite souris. Parce qu'après, c'est les contrôles. C'est-à-dire, on vous contrôle à l'entrée, à la sortie, et on ne vous paye rien. Voilà, donc on aura l'occasion de développer tout ça au cours de nos conversations. Merci.
Merci. Alors, je vais passer maintenant à Mohamed Bajrafil, qui, je pense, n'a pas besoin d'être présenté.
Si.
Et à la fois imam à la mosquée d'Ivry sur Seine, et il est aussi le secrétaire général du Conseil théologique musulman de France, qui est un nouveau conseil. Peut-être il pourra nous en dire davantage. Et il est aussi auteur de 2 essais, Islam de France l'an 1, donc qui a été publié en 2015, et Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman, donc qui vient de paraître, qui a, en 2018. Il est aussi chercheur en linguistique et titulaire d'un doctorat en linguistique aussi, et est chargé de cours au Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, etc., etc. Donc, Mohamed, si tu peux nous en dire davantage.
Je vais faire comme tout le monde et dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. On appelle ça une négation polémique en littérature, mais que dire? En réalité,
ta formation dans les sciences islamiques, par exemple, ça vient d'où?
Alors, moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. C'était dans la famille, et Mohamed, en parlant de l'exégèse, du travail d'exégèse qu'il a fait, il a essentiellement travaillé sur l'exégèse qu'un de mes maîtres a fait, plutôt le maître de mon papa. Et donc, à la maison, j'ai eu, très jeune, à faire des cours de théologie. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après le bac, je ne devais pas venir en France, je devais aller aux États-Unis ou au Canada. Mais un parcours de vie a fait que j'ai atterri à Lutèce. Et mon père m'avait dit il ne faut surtout pas que tu fasses du droit, parce que je lui avais dit que je voulais faire du droit international. Et il m'a dit j'ai suffisamment appris de droit, le droit du fait. Il ne faut pas que tu lui ajoutes quelque chose. Donc je suis venu à Paris. Où j'ai fait des études de lettres, mais je n'avais pas abandonné l'idée de faire du droit international. C'est vrai que j'avais fait une petite formation de droit international, bon, ce n'était pas très important, pour rester un peu fidèle à ce que je voulais. Donc à la maison, très jeune, j'ai été, je ne dirais pas initié, parce qu'en fait, je n'ai pas eu autre chose à faire. Et je pense que si je pouvais faire autre chose, je l'aurais fait. Mais malheureusement, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas jouer parce que je ne sais rien, même faire du vélo, je ne sais pas faire. c'est pas des blagues, c'est du sérieux. Et je ne sais pas nager, bien que je sois né sur une île, parce que je n'avais pas le droit de sortir de la maison. Et puis j'ai commencé à lire le Coran à l'âge de 5 ans, 6 ans, dans des assemblées. J'ai continué, mais. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on faisait... moi, j'avais droit à 3 écoles, il y avait, ou 4. Il y avait l'école coranique, où on allait le matin. Mohamed en parle dans sa thèse. Parce qu'on est amis dans la vie. Hein. En même temps, les Comoriens sont tellement peu nombreux qu'ils se connaissent tous. Ensuite, on allait à l'école dite française. Et après, il y avait l'école de papa, le Lazar, où on faisait des cours de droit musulman, d'exégèse et surtout de soufisme. Et à 2h du matin, on avait un cours de grammaire arabe classique. Et entre-temps, il y avait des cours de tajwid, les règles de lecture du Coran. Mais bon, ça, le temps variait, en fait, c'est selon la présence du cheikh qui était là. Et bah, j'ai grandi un peu comme ça.
Mais comment, du coup, en fait, avec cette formation dans le giron familial, dans les sciences islamiques, vous êtes arrivé à une thèse de doctorat en linguistique, en fait? C'est le passage de...
Bah, en fait, avec le recul, je m'aperçois que papa, il y est pour quelque chose, parce que très jeune, à la maison, il parlait en 3 langues, dont le somalien. Alors, je me suis toujours demandé où est-ce qu'il l'a appris. Arrivé en 3e, j'avais le choix entre aller faire une série scientifique ou plutôt une série littéraire, et j'étais très attiré par le personnage de Léopold Sédar Senghor. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire ce qu'on appelait là-bas Bac A, donc j'ai fait une série littéraire. Après quoi, j'ai hésité à faire du droit, mais papa m'a dit de ne pas en faire, et du coup, je me suis dit... sur les conseils d'un autre personnage que je considère comme un père pour moi, j'ai décidé de faire lettres et je suis venu ici. Donc là, vous jouez à domicile, c'est chez moi. J'ai d'ailleurs déjà fait un truc ici. Donc je suis venu à Paris 7 et aussi parce que c'était pas très loin de chez ma femme. Voilà.
Ben, merci. Et donc, pour conclure en fait ce premier tour de table, on va maintenant passer à mon voisin qui est Ahmed Ndjegen et qui est aussi très impliqué dans le tissu associatif à Marseille et aussi un artisan du dialogue interreligieux, imam à la mosquée Bilal de Marseille et aussi c'est aussi un entrepreneur. Et il anime une émission hebdomadaire en fait sur une radio qui est la radio Gazelle, qui est diffusée en fait dans les Bouches-du-Rhône. Et donc je vous laisse nous parler un peu plus davantage de votre parcours.
Ben, merci. Merci à vous pour cette présentation, mais avant tout merci pour les organisateurs de cet événement. Je dis pas seulement un colloque, mais un événement parce que c'est le premier du genre. Et c'est une initiative à encourager et qu'aussi on souhaite que ça puisse évoluer et continuer. Bon, je m'appelle Cheikh Ahmed, on m'appelle à Marseille Cheikh Ahmed. Je suis imam, comme il l'a dit, à la mosquée Bilal. C'est une mosquée qui a été ouverte en 2009. Et jusqu'alors, il n'y avait pas d'imam sénégalais à Marseille et en France. Si ce n'était des imams qui remplaçaient, mais un imam titulaire, il n'y en avait pas. Et donc, voilà, j'avais commencé en faisant le discours de vendredi en arabe et en français, parce qu'il y avait un choix, trois choix, soit faire le discours en arabe, faire le discours comme en français, comme au Canada par exemple, et aux États-Unis aussi, dans certaines mosquées, qui le font en anglais directement, ou alors faire le discours entre le français et l'arabe, l'arabe et le français. Donc, moi j'ai choisi de faire le discours, parce qu'il y avait aussi des questions de fiqh, de théologie qui se posaient. Est-ce que le discours, étant donné que les deux discours de vendredi font partie de la prière, parce que la prière de vendredi c'est deux rak'a, alors que la prière de dhuhr dans la semaine, en fait les autres jours de la semaine, c'est quatre rak'a. Donc les deux discours de vendredi font partie intégrante de la prière, donc on doit utiliser que la langue arabe. Donc, alors là j'avais coupé la poire à deux, et du coup la mosquée avait raflé un peu la vedette aux autres mosquées de Marseille. La mosquée était toujours pleine, et jusqu'à ce cas, au moment de la prière, on était obligé de fermer la porte. En fait, j'étais pas. C'est une mosquée qui est. L'imam, c'est un Sénégalais, mais il y a plus de non-Sénégalais que de Sénégalais. Parce qu'avant, cette mosquée, j'interviens depuis 2001 à une radio, Radio Gazelle. Donc, il y a 100 000 auditeurs par semaine qui m'écoutent, donc c'est tous les samedis, et ce qui fait que les gens, ils me connaissaient déjà, en fait, ils connaissaient ma voix, mais ils ne m'ont jamais vu, donc c'était aussi, voilà. Mais pour dire aussi l'importance de cette initiative, c'est très important, non pas parce que, voilà, pour se défendre, ou résister à une certaine forme de racisme intra-musulman, mais tout simplement parce que c'est très important que voilà, que toutes les particularités, parce que c'est ça que j'appelle les richesses de l'islam, c'est les différentes particularités constituent une richesse pour l'islam, constituent aussi une richesse pour la communauté musulmane, constituent aussi une richesse pour la communauté nationale. Parce que les richesses qui caractérisent les communautés musulmanes, en tout cas les musulmans qui sont ici en France, ces richesses sont forcément de facto des richesses qui devraient appartenir à la communauté nationale. Donc, pour dire que les musulmans ne sont pas des citoyens, comment on dit, il y avait à part entière et entièrement, il y avait une expression, voilà, voilà, que tout le monde connaît. Ah, voilà, que tout le monde connaît. Voilà, du coup, déjà quand j'avais commencé les émissions à la radio, il y a beaucoup.
Quelles sont les thématiques en fait de ces émissions?
C'est sur... Ah, sur la société, c'est des questions liées à la société. Des questions, voilà, que nous.
Pas forcément religieuses, c'est ça?
En fait, l'islam et la société, en quelque sorte. L'islam et la société, donc c'est toujours lié à ça. Jusqu'en 2005, où ils nous avaient refusé de nous donner une mosquée pour célébrer le Maulid, en 2005, donc on avait écrit un texte avec notre ami Bakari, un texte « Va-t-on voir un mot ?» C'était un mot qu'on avait voulu, un mot provocateur, « Va-t-on vers une ethnicisation des mosquées ?» Et c'est une lettre.
Qui vous a refusé en fait de vous donner la mairie, c'est ça?
Non,
la mairie considérait que c'était une bida?
Non, c'était pas la mairie, c'était puisque c'était même le siège du conseil des imams, ce conseil des imams auquel j'avais contribué, participé, voilà, donc j'étais membre au conseil des imams, donc parce qu'il y a une partie des musulmans qui sont contre le maulid, donc on n'est pas là pour des questions de théologie, mais on avait bien expliqué, bon, on n'aura pas le temps de rentrer dans tout ça. Donc, j'avais dit que puisque c'est ainsi, tous les samedis, je parlerai de l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au vécu de l'individu. Donc, ça va être en quelque sorte une forme de maulid, mais une maulid, un maulid social. Donc, depuis plus de 15 ans, je fais que ça. Et alhamdoulilah, toutes les autres émissions, presque, ils ont arrêté. Il n'y a que la mienne qui continue. Donc, ce qui fait que aussi, une petite anecdote, quand je suis allé à la Mecque, alors, après, à Minan, après la prière du matin, on m'avait demandé de faire un petit discours. J'avais fait un petit discours. Les gens, ils avaient fait une file de presque 100 mètres. Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed! Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed! Donc, parce que, bon, ils reconnaissaient la voix, mais ils m'avaient. Bon, c'est la radio, on ne voit pas l'intervenant. Donc, pour dire tout simplement que c'est important que les particularités puissent s'exprimer. Et depuis, on avait créé une association qui s'appelle ACEP, Association pour la Science, la Culture, l'Éducation et la Tolérance. Et cette association, c'est pour gommer les frontières. Les frontières liées aux langues, liées aux races, liées aussi aux générations et liées aussi à la pratique religieuse. Parce que on a constaté, avec l'expérience que nous avons eue avec la fraternité des Tidjanes de France, qu'il y avait parfois des blocages entre les foyers religieux. Donc, je suis d'obédience de tel chair, donc je ne peux pas composer avec quelqu'un qui est d'obédience de tel autre chair. Ça, c'est donc. Il y avait aussi une fracture au niveau du soufisme. Moi, je suis musulman, je suis contre le soufisme. Et donc, ça aussi, il fallait le gommer. Il y avait aussi une autre fracture entre le fait d'être musulman et d'être citoyen. Donc, ça, c'est un travail que nous sommes en train de mener sur 5 axes. Parce que c'est très important. La mosquée, là où j'officie, il y a plus de Maghrébins et de Français que de Sénégalais et d'Africains. Et ça aussi, j'avais tenu, pour moi c'était très important. Il ne faut pas que je parle seulement aux Sénégalais. L'émission que je fais hebdomadaire par semaine, cette émission, quand j'avais commencé en 2001, les Sénégalais voulaient que je fasse l'émission en Wolof. J'ai dit non, je fais l'émission en français. Pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis parce que nous sommes en France. Et ben, ils m'en avaient voulu, il y en avait qui avaient boudé et tout ça. Mais les Sénégalais à Marseille ne font pas plus de 15-20 000 Sénégalais. Alors que la population musulmane à Marseille, ça fait, c'est presque le cinquième, donc plus de 200 000 musulmans à Marseille. Donc, pour dire qu'il n'y a pas une maison musulmane à Marseille et dans les Bouches-du-Rouge où ils ne connaissent pas Cheikh Ahmed. Non pas parce que je le fais pour que je sois connu, mais tout simplement parce qu'il y a un discours. Et aussi, ce qui est plus important, c'est que quand j'avais commencé, certains imams, ils avaient dit que ah, ça fait partie des signes de la fin des temps. Voilà un noir qui parle de l'islam à nos femmes. J'étais d'accord. Certes, le prophète, il avait donné 10 signes. 10 signes. Quand vous verrez ces signes, eh bien, c'est la fin des temps. Mais parmi ces signes, vraiment, j'ai vraiment regardé les livres, livre sur livre, mais j'ai pas vu un seul signe où c'est marqué que s'il y a un noir qui parle de l'islam, eh bien, c'est la fin des temps.
Parce que c'est le 11e, c'était le 11e.
peut-être. Mais pour dire que, bon, c'est pas parce que, oui, parce que j'ai bien apprécié ce qu'a dit Bakary tout à l'heure. Il y a parfois des paroles qui te font révolter. Mais il faut plutôt prendre ces déclarations bon, avec philosophie, en sachant que c'est peut-être qu'il y a un déficit de connaissances, ou même d'intelligence même, et il fallait travailler à ce niveau-là pour dire que nous partageons un temps et nous partageons un espace.
Okay. On va revenir, de toute façon, on reviendra sur cette question-là dans le débat en fait qu'on va ouvrir maintenant. Et pour en fait lancer le débat autour de cette table ronde, j'avais une question rapide, mais on verra tout à l'heure. C'était par rapport au nom de la mosquée Bilal. Donc je me disais que Jamil allait se poser la question. Pourquoi vous avez choisi le nom Bilal? Est-ce que c'est parce que c'est fondé par des personnes Non, voilà. Enfin, si vous voulez, rapidement, en fait, pourquoi le nom Bilal, en fait, et pas, je sais pas,
ouais, Ahmed ou... Non, parce que Bilal, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autant il y a des mosquées qui portent le nom de Omar ibn Khattab, Abu Bakr Sadir, Osman ibn Affan, mais c'est normal qu'il y ait, eh bien, une mosquée qui s'appelle.
Donc, dans le choix du nom, en fait, il y avait. C'était un choix militant, en fait.
Disons que c'est pas l'imam qui avait choisi le nom. Déjà, j'avais refusé d'être l'imam, déjà. Donc, c'est parce que, voilà. Au moment du choix, c'était un choix collectif. D'accord. Et voilà, les frères avaient choisi. Je ne l'avais pas choisi moi-même, mais je trouve que c'est un choix judicieux. Et que, tout dernièrement, il y a un mois et demi, il y a un frère qui est venu de Strasbourg. Je suis venu à Marseille pour faire la prière à la mosquée Bilal. Donc il est venu, il a fait la prière. Après, il m'a dit, mais cher, j'ai une question à te poser. J'ai dit laquelle? Il m'a dit que, mais pourquoi nous, les musulmans, on n'est pas disciplinés? Pourquoi on n'est pas disciplinés? C'est là une très bonne question. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un enseignement qui nous incite à être disciplinés. Ce n'est pas parce qu'il y a une carence au niveau des textes qui nous incite à être disciplinés, mais c'est tout simplement parce que c'est un problème, eh bien, peut-être familial, peut-être personnel, mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est la faute de l'islam ou la faute des textes de l'islam. Oui.
Okay. En tout cas, merci. Et donc, là, on va commencer en fait le débat. Et pour lancer en fait ce débat-là, justement, on va revenir sur la question de la légitimité. Et dans un article qui a été publié sur les cahiers d'islam par Michael Prévost, et le titre de l'article, c'est « Réflexion sur la légitimité islamique dans l'espace francophone européen ». Il s'interroge en fait sur la manière dont, dans la communauté musulmane européenne et francophone, les personnes qui suivent en fait un cursus dans les sciences islamiques bénéficient d'une légitimité ou non. Et la conclusion en fait de l'article de Michael Prévost, c'était de dire que il est plus facile d'avoir une légitimité quand on a un bagage de formation dans les sciences islamiques et ou quand on est aussi un militant dans la communauté musulmane, d'être légitime auprès de la communauté musulmane quand on est un arabe que quand on est un français, un blanc converti à l'islam. Et il disait que le par exemple, un blanc qui est converti à l'islam, s'il s'engage dans des questions de réforme de l'islam, il sera vu comme étant un collabo en fait de l'intérieur. Et dans le même sens, dans la même optique, un noir aussi qui serait dans ce même type de militantisme, ou en tout cas qui est là avec un bagage dans les sciences islamiques, le noir sera rarement pris au sérieux en fait. Il sera considéré comme un gentil qui, de toute façon, n'arrivera jamais à maîtriser les classiques de la langue arabe, etc. Ça, c'est l'article de Michael Prévost. J'aimerais partir en fait de cet article-là parce que c'est une réflexion que lui, il pose à partir de la Belgique où lui-même, c'est quelqu'un qui est engagé justement dans les débats à l'intérieur de l'islam et savoir en fait qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que la légitimité dans la communauté musulmane européenne passe aussi par le filtre de la race et est-ce que vous avez été confronté à ça dans le cadre de vos différentes activités? Et pour commencer, du coup, je vais on va commencer par allons-y par Madame Delapaille. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez été confronté à ça dans le cadre de votre militantisme et de vos actions?
Évidemment. Juste, je voudrais vous lire un certain texte pour remettre un contexte quand on est noir en fait musulman. Ce texte, je l'ai extrait en fait d'un livre collectif à sortir qui s'appelle Afroféminisme au pluriel et féminisme musulman, perspective critique, enjeux et pratique. Alors moi, ma contribution s'appelle Afroféministe au pluriel musulman, entre discrimination et déni d'appartenance, parce qu'on navigue en fait entre ces deux. Bref. Donc, à partir de la célèbre formule de Patricia Bell Scott, Gloria Hull et Barbara Smith, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, et nous sommes quelques-unes à être courageuses pour décrire la condition des femmes noires états-uniennes. Et au regard de la situation française, on peut très facilement retrouver une condition et des mécanismes semblables en dépit de contextes différents. Donc, la situation reflète l'invisibilisation des femmes noires. Donc, là, c'est une spécificité des femmes, hein, donc je ne parle pas forcément des hommes noirs, mais ils ont leur rôle dedans. Donc la situation reflète l'invisibilisation des femmes noires dans les sociétés occidentales racistes et patriarcales. Les discriminations qu'elles subissent n'étant prises en compte ni par les luttes antiracistes qui sont qui sont en fait taillées sur mesure pour les hommes racisés, ni par les luttes féministes qui sont centrées sur les besoins des femmes blanches. Donc quand ces femmes sont musulmanes, s'ajoutent d'autres invisibilisations, si bien qu'on pourrait décliner la formule ainsi. Donc je féminise, hein, en lisant, on ne voit forcément pas la féminisation, mais donc tous les musulmans sont arabes, tous les noirs sont chrétiens ou animistes, et nous sommes quelques-unes à être héroïques. Donc ça c'est vraiment le contexte général de déni en fait qu'on subit quand on est noir dans une société déjà raciste et islamophobe. Donc et ensuite il y a une partie sur le déni d'islamité et déni d'islamophobie. Donc l'islamophobie en France est un racisme respectable. On la considère souvent comme une version rénovée du bon vieux racisme anti-arabe. On pouvait jamais dire sale arabe ou bouyoul. Il suffit aujourd'hui de dire sale musulman et le tour est joué. Toutefois, ce raisonnement, tout en étant partiellement vrai, invisibilise complètement les musulmans noirs. On a interrogé un jour un lecteur du Front National, par exemple, qui disait doctement qu'il y a des musulmans chrétiens, notamment au Moyen-Orient. Il était clair dans sa tête qu'il pensait que musulman était synonyme d'arabe. Récemment, notre philosophe préféré, Raphaël Antevel, disait d'ailleurs qu'est-ce que cela veut dire en islam. Je connais un paquet d'excellents musulmans qui ne croient pas en Dieu. Donc on voit bien que les gens, quand ils disent musulmans, en fait, dans leur tête, c'est arabe. Et puis, on peut aussi revenir à l'enquête Théo. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, qui avait été menée en 2008-2009 par l'INET et l'INSEE. Là, par exemple, il y a trois CV, en fait, de femmes ont été envoyées. Bien sûr, ce ne sont pas de vrais CV. Hein. Donc, il y avait deux femmes portées, des prénoms sénégalais reconnus. Je crois que c'est... des noms sénégalais, Diouf. Et une avait un prénom à consonance chrétien et l'autre à consonance musulmane. Donc il y avait...
Marie Khadija,
c'est ça, Marie Khadija. Et puis on a pris Aurélie Ménard, qui semblait beaucoup plus laïque, on va dire. Et en fait, celle qui reçoit plus de réponses positives, c'est Aurélie Ménard, suivie de Marie Diouf et Khadija en dernier. Parce que, à connotation, voilà. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse vraiment, ma conclusion. Que j'ai appelé femme noire afroféministe et féministe islamique. Donc en tant que femme noire musulmane, j'ai eu le courage d'affronter mes questionnements intérieurs, de faire face à mes doutes spirituels. J'ai eu l'audace d'aller chercher le savoir pour trouver des réponses apaisantes. J'ai dû en avoir de la persévérance pour aller jusqu'au bout de cette quête, car étudier la théologie musulmane en remettant en question les règles établies, en tenant tête à des hommes qui s'attendent à ce qu'une femme musulmane vienne étudier en toute discrétion, en buvant toute parole qu'on lui sert comme émanant de Dieu, est héroïque. Ce fut violent, physiquement et psychologiquement, mais c'était le prix à payer pour retrouver une paix intérieure, une foi, une spiritualité apaisée. Questionner encore et encore le fait que l'esclavage n'ait pas été aboli de façon claire dans le Coran, comme l'a été l'alcool. Alors qu'à servir un être humain est ô combien plus grave que se saouler. Se demander si on peut continuer de croire en Dieu qui nous demande d'obéir à un homme juste parce que nous sommes femmes. Se torturer pour comprendre pourquoi les anges maudiraient les femmes qui se refusent à leur mari et rien sur les maris qui se comporteraient de la même façon. Tant de questions auxquelles seule une recherche courageuse, audacieuse et persévérante de science peut apporter une réponse, des réponses. Voilà ce qui m'a animée quand j'ai entrepris d'étudier la langue arabe et la théologie musulmane. Je voulais comprendre les paroles de Dieu sans intermédiaire. Je fus inspirée par des femmes audacieuses comme Umm Salama, une des femmes du prophète de l'islam, qui demandait à ce dernier pourquoi Dieu, nous, entre parenthèses, les femmes, ne nous interpelle-t-il pas au féminin dans le Coran. Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. En réponse, Dieu commença à s'adresser aux femmes, au féminin. Si nous avons peur de formuler nos questions, si nous n'avons pas le courage d'aller chercher des réponses aux questions qui nous hantent, alors il n'y a aucune chance que nous trouvions des réponses qui fortifient notre foi, qui nous permettent d'être apaisés. En tant qu'afroféministe et féministe islamique musulman, je me suis réapproprié les textes scripturaires en les étudiant pour être en mesure de produire des interprétations libératrices tout aussi valables que celles misogynes et patriarcales des hommes. On déplaise aux gardiens de l'islam. Oui, nous sommes quelques-unes à être héroïques. En fait, c'était pour introduire vraiment... mon expérience au sein de l'Institut de l'USH en fait, parce que c'est là-bas où j'ai étudié pendant 3 ans l'arabe et puis après la théologie musulmane. Et comme je...
En région parisienne, c'est ça ou c'est à Château-Chinon?
C'est à Saint-Denis. À Saint-Denis. D'accord. Et en fait, c'est vraiment en toute, parce que je ne suis pas modeste du tout, c'est en toute modestie que je vais le dire, j'ai apporté énormément, énormément de changements dans cet institut. Dans le sens où quand j'ai commencé en fait, les études d'arabe, c'était que 2 ans. Quand on a fini les 2 ans, je suis partie voir Cheikh Jabala en lui disant c'est pas possible d'arrêter un charia en fait, avec les 2 ans d'arabe, mon niveau n'est pas suffisant, je veux une année supplémentaire. Il me dit non, c'est possible, non. Donc on nous a envoyé pendant un mois en fait des profs de théologie qui venaient nous faire une introduction à la théologie pour nous montrer qu'on avait le niveau. Et à la fin du mois, je suis repartie, je lui ai dit franchement, je me sens pas d'attaque, je voudrais vraiment une troisième année pour être à mesure de faire théologie. Et en fait, donc il m'a dit, si tu m'amènes 20 personnes qui sont capables de faire, qui s'engagent en fait pour l'année prochaine pour une classe, je vous fais une troisième année. Et je lui ai amené cette liste-là, la troisième année a été créée, et ça leur a donné l'idée d'aller demander une reconnaissance en fait au niveau de l'éducation nationale qu'ils ont obtenue depuis pour la langue arabe et théologie musulmane. Et quand j'ai fini, je me suis engagée en théologie musulmane. Donc c'était la première promotion en fait de francophones qui se retrouvaient majoritaires dans une classe de théologie. D'habitude c'était que des arabophones qui étaient là. Donc nous on était vraiment la première classe où on était formés par l'USH en général et on arrivait en théologie musulmane. Ça a été très très difficile mais en même temps très formateur en fait. Moi je me souviens un des profs nous disait... En fait, vous nous donnez tellement de travail que quand on rentre chez nous, en fait, ils nous appelaient les francophones. Chez les francophones, même les versets du Coran, vous les questionnez. Donc, tout y passe quoi. Donc, c'était vraiment... Et j'ai été, par exemple, celle qu'on envoyait, en fait, poser en classe les questions qui fâchaient, c'est-à-dire les questions, les rapports entre hommes-femmes, les questions très intimes... parce que j'acceptais de le faire et qu'il y a cette culture-là qui est assez répandue et hyper difficile dans la communauté musulmane. J'ai bouleversé aussi cet institut parce que pendant le ramadan, par exemple, quand j'avais mes règles, je refusais de me plier, à me cacher, à manger. J'allais prendre, par provocation des fois, je confesse, je le fais par provocation. J'allais prendre mon café tranquillement à la machine à café et on me rappelait à l'ordre en me disant quand même, ça reste... C'est pas respectueux des frères, machin. Oui, mais moi, je suis pas arabe chez moi. Je me suis jamais caché de mon père quand je gênais pas. Donc, je vois pas pourquoi je le ferais ici. Un jour, si je vais au Maroc et que ça se fait, pendant le ramadan, je vous promets, je respecterai la culture. Mais là, on est en France. Donc, il est hors de question que votre culture l'emporte sur la mienne. Donc, ça a été, en fait, une résistance sur résistance sur résistance parce que tu n'es pas arabe et que tout ce que tu fais, de toute façon, c'est un islam qui est emprunt de ta culture et donc est forcément faussé. J'y ai reçu des coups physiques parce que les frères se sont réunis en se disant on ne peut pas laisser faire ça, quoi. Elle ouvre trop sa bouche et à un moment il faut la faire taire. C'est arrivé jusque là, mais oui, j'ai déprimé pendant un mois, je suis retournée, je me suis dit vous ne mourrez pas en fait, vous ne mourrez pas, et j'ai continué jusqu'au bout, j'ai résisté à tout le monde. Et en fait, le problème que ça pose aujourd'hui dans l'enseignement, en tout cas, de la théologie en France, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un besoin criant de changer la façon d'enseigner et aussi le contenu de ce qui est enseigné. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui en France, qu'on puisse encore se baser sur les 4 écoles sous prétexte que c'est les plus connues. Ok, on va t'enseigner quelques petits imams après, mais ce sont les 4 écoles. Des avis qui datent des siècles et des siècles d'avant. Quand on sait que ces imams-là, que ce soit Shafi'i, quand ils ont voyagé, ils ont changé d'avis. Donc nous, on nous amène encore des avis qui datent de siècles. Aujourd'hui, tu ouvres un livre de fiqh, par exemple, il y a encore l'esclavage qui est codifié dedans. Bien sûr, le prof va passer en disant « Oui, bon, c'est plus valable. » Pourquoi vous n'avez pas le courage de l'enlever de ces bouquins, tout simplement? Vous étudiez, par exemple, que ce soit l'héritage ou en tout cas... la base de l'impôt et tout, on vous le base encore sur des dates. Je veux dire, on passait des heures à faire des calculs sur les dates, un truc, alors que nous, c'est des comptes bancaires qu'on a. Ce qu'on veut, c'est des profs qui nous apprennent sur le truc financier. Ensuite, il y a le rythme dans lequel les enseignements sont donnés. C'est-à-dire que les musulmans, en général, même quand ils connaissent rien de l'islam, ils connaissent le fiqh. Le halal haram, c'est la base. Donc, quand vous arrivez en première année de théologie, on vous bassine avec ça. D'ailleurs, le fiqh vous suit pendant tout au long, sauf peut-être en master un petit peu moins. Mais ça vous suit. Donc, le fiqh, c'est matin, midi et soir, quoi. La technicité de l'adoration. Comment faire la prière, comment jeûner, comment ceci, cela. C'est qu'en deuxième année où vous allez aller, par exemple, dans Usul, c'est-à-dire les fondements, où on va comprendre pourquoi tel savant a interdit ça ou pas. Et ensuite, seulement en troisième année, là, on rentre dans les maqasid, qui sont les finalités. Alors que les finalités devraient être comprises par tout le monde avant tout le reste. Parce qu'en fait, elles l'emportent pour moi sur le reste. Elles nous permettent vraiment de comprendre ce que Dieu attend de nous. Bien avant, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on fait le ramadan. Aujourd'hui, les musulmans ne connaissent pas les finalités de cette religion. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut adorer un Dieu sans connaître réellement ce qu'il attend de nous. À part la technicité de nos gestes qui sont complètement dépourvus de sens.
Pour revenir en fait à la question de la légitimité, en fait, est-ce que avec la formation en théologie, donc quand vous avez eu votre diplôme et qu'avec la panel d'engagement que vous avez, est-ce que vous faites face à, en fait, à un rejet qui serait lié en fait au fait que vous soyez, je ne sais pas, une personne de couleur ou quelque chose dans ce sens-là, en fait, à l'intérieur même de la communauté musulmane, en fait, je
parle. En fait, pas spécialement, parce que déjà, je suis pas un homme. De deux, je ne cherche pas à être imam, donc forcément, j'ai moins ce problème-là. Moi, personnellement, ces études-là, je les ai faites avant tout pour moi personnellement. Je voulais comprendre. J'en avais marre que les hommes m'expliquent ce que c'était ma religion. Je voulais avoir une relation directe à Dieu, sans intermédiaire. Donc, c'était d'abord pour moi. Ensuite, j'ai pu transmettre dans les mosquées, mais pareil, toujours casé au fin fond, en haut, donnant des cours qu'à des femmes. Tu vois, les hommes, quand ils donnent des cours, c'est pour tout le monde, mais les femmes donnent des cours à des femmes. Mais j'ai pu transmettre comme ça pendant le ramadan ou même en dehors du ramadan. Donc moi, j'ai pas vraiment ce truc-là. C'est au niveau militant où je suis confrontée à ce... C'est même pas de la légitimité parce que moi, je leur ferme la bouche directement quand ils commencent à m'expliquer la religion. Je dis, t'as fait quoi comme étude pour venir m'expliquer à moi qui suis diplômée la religion musulmane. Tu vois, je les appelle souvent les avocats commis d'office de l'islam. T'as pas besoin de m'expliquer en fait ma religion, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est plutôt au niveau militant où ce truc-là me rattrape. Mais ce qui concerne les femmes et leur légitimité, c'est dans les mosquées, on n'a absolument aucune légitimité. Ça, c'est une réalité. Déjà, quand tu es une femme arabe, alors quand tu es noire, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'espérer aller dans les mosquées. Mais comme je n'avais pas cette prétention-là, honnêtement, je n'ai même pas bagarré pour ça. Je suis partie à la mosquée de Paris parce qu'il était hors de question qu'on nous mette à prier au sous-sol et en plus qu'on nous explique. On l'a bien décoré, c'est bien joli et tout. Mais allez au sous-sol vous-même. Voilà. Donc ça, je l'ai fait parce que je supportais pas. J'ai jamais supporté en fait les mosquées, à part l'USH, j'avoue, j'ai jamais supporté les mosquées parce que je n'ai jamais supporté de prière derrière un mec que je ne peux pas voir. J'ai toujours voulu, quand un imam me fait une khutbah, moi je veux qu'il me regarde dans les yeux, qu'il me parle. Je veux pouvoir comprendre ce qu'il dit et qu'on se regarde. Et ça, je l'expliquais à l'USH à chaque fois. Parce qu'en fait, on avait des séparations là-bas avec du bois troué, on pouvait voir l'imam. Et c'est des femmes qui allaient acheter des rideaux pour les mettre. Et moi, j'allais les enlever toutes les semaines. Toutes les semaines, on les remettait et toutes les semaines, je vais les enlever. Et donc, on me disait, c'est pas là, ma soeur, t'es mariée, tu regardes l'imam. Mais oui, je kiffe l'imam, moi.
Ben, merci pour cette...
Ah oui, dernière chose. Allez-y. La théologie est vraiment arabo-centrée. Mais vraiment arabo-centrée. C'est-à-dire que, à l'USF, par exemple, en fin de licence, j'avais envie, par exemple, d'étudier... Cheikh Ahmad Bamba, parce qu'il a écrit quand même en fiqh et tout ça. Après, c'était trop pour moi, je pouvais pas. Mais je n'arrivais pas de leur dire quoi. Pourquoi ce sont des imams tout le temps, enfin, des avis arabes tout le temps qu'on. Alors, j'avais un cher qui aimait me dire oui, mais l'imam, je sais plus lequel, il n'est pas arabe. Vas-y, il est arabisé. Tu dis à n'importe quel musulman, il est. Enfin, c'est vraiment arabo-centré. Les avis sont déjà trop vieux, je veux dire. C'est des siècles qui nous séparent, alors que ces mêmes imams aujourd'hui, s'ils étaient là, je vous assure qu'ils doivent se retourner même dans leur tombe, quoi. C'est pas possible qu'ils se disent, après des siècles, les gens, ils continuent à essayer de faire vivre. Donc, en fait, on manque de savants, pour moi, courageux, mais vraiment courageux, qui puissent prendre en charge ces questions-là, c'est-à-dire donner des avis et essayer de balayer. En fait, c'est même pas les balayer. Ces livres-là doivent rester des livres d'histoire. Aujourd'hui, on a besoin d'avis, en fait, qui soient conformes avec les réalités de notre époque. Et on n'a pas de savants assez courageux pour le faire. Le peu qui le fait, bah on les balaye, quoi. T'as un temps, ça va, on se dire que le foulard, il n'est pas obligatoire. Oh mon Dieu, ça y est, t'es excommunié. Mais on a besoin de gens courageux. On n'a pas besoin de savants qui viennent juste pour se faire aimer, quoi. Ah, cher machin, cher truc, cher mal. Ça, c'est bon, il y en a marre, quoi. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des gens courageux qui prennent en charge cette religion. Enfin, cette religion. En tout cas, le fiqh. La façon d'enseigner, les maqasid, qui les rendent accessibles à tous les musulmans, que les musulmans puissent comprendre vraiment l'âme de leur religion, pas la technicité, mais l'âme de la religion.
Merci pour cette présentation énergique qui je pense qu'il est très bien en fait pour un après-midi, parce que quand on mange après moi j'ai pas pris de café, donc on a tendance à s'endormir, et donc c'est bien d'avoir et voilà, donc là on vient d'avoir la dose de café. Et donc on va continuer en fait sur cette thématique de la légitimité. Et là, cette fois-ci, je vais me tourner vers un imam, Mohamed Bajrafil. Donc, c'est pas un imam qui est ancien, donc il est avec nous. Et d'ailleurs, il transporte des valises. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, mais là n'est pas la question. Et donc, par rapport à cette question de la légitimité, est-ce que toi, en fait, déjà au Comore, est-ce qu'on est confronté, parce que le Comore c'est un cas particulier, peut-être que tu pourras nous en dire plus, est-ce que tu es confronté à cette question de la légitimité ou quand tu es venu en métropole? Voilà.
En fait, cette question, pour être honnête avec toi, cher ami, elle ne s'est jamais posée à moi. Peut-être eu égard à mon histoire personnelle, mais j'ai jamais eu à chercher à m'imposer pour une raison ou pour une autre. J'aime bien taquiner mes enfants en leur disant que je suis né avec un micro dans la bouche. Que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 5-6 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, à parler, à lire le Coran en public. Donc je n'ai jamais eu à chercher à m'imposer. Il y a eu à partir des années 90, et Mohamed le dira sans doute mieux que moi, des tensions qui sont nées de ce que j'avais... dans un article que j'avais commis en 2004 sur l'islam comorien, que j'avais intitulé « L'islam comorien, la bataille de deux conservatismes ». Parce qu'à partir des années 90, il y a eu le retour plus ou moins massif d'étudiants comoriens des universités saoudiennes dans lesquelles ils ont été formés à une autre école juridique que l'école chafiite, qui est l'école comorienne, et cela a donné des scènes auxquelles j'ai eu très tôt l'occasion d'assister, voire de participer comme acteur. Moi, je les en remercierai jamais assez, parce que ils m'ont permis, sur le plan de ma formation personnelle, de m'investir dans la lecture d'autres ouvrages que ceux de l'école chafiite traditionnelle que nous lisions, et ils m'ont même permis de commettre un petit opuscule en 1994 que j'avais intitulé en arabe Al-Mithtab al-Battar Farradi ala Maza'im al-Wahhabiyya, le cutter aiguisé contre les prétentions wahhabites. La guéguerre avait commencé à l'époque, et je l'ai commencé moi en tant que fils de papa. C'est-à-dire que mon père, certains de ceux qui sont rentrés d'Arabie Saoudite à l'époque étaient ses étudiants. Mais comme le dit M. Samb dans son dernier ouvrage, je ne dirais pas la dilapidation, mais on faisait pleuvoir des bourses dans le monde arabo-musulman pour que des étudiants partent étudier en Arabie Saoudite. Et c'était des montants qui étaient plutôt... important pour des gens qui, comme moi, viennent d'un pays où le revenu par habitant ne dépasse pas $600 par an. Donc ils pouvaient aller se faire former, et quand ils venaient, la première des choses auxquelles ils s'attaquaient, c'était le fiqh. Et je me rappelle, je dirais pas une baston, mais quelque chose qui n'est pas très loin, où justement un de ces étudiants de mon père qui est revenu d'Arabie Saoudite avait dit au détour d'une discussion qu'il fallait se méfier des savants du fiqh. Et naturellement, il visait mon papa. Et mon grand frère a organisé une espèce de guet-apens.
Halal.
Intellectuel.
Un guet-apens halal. Oui.
Et dans lequel on s'est retrouvé et on l'a lynché intellectuellement. Et en fait, ça a commencé à partir de là. Mais disons que la question de la légitimité, même une fois en France, pour moi, j'ai jamais souffert du fait que je ne sois pas maghrébin. Je ne l'ai jamais ressenti. Je suis arrivé en 99 en France et très rapidement, on m'a demandé d'être l'imam d'une mosquée qui se trouvait dans la ville où je suis arrivé en France, à Comble-la-Ville, en Seine-et-Marne. Et je pense avoir fait plus de 100 mosquées en France où j'ai été imam. Je pourrais franchement vous dire que je n'ai jamais eu à souffrir de ma couleur en tant que quelqu'un de couleur noire. On me l'a jamais fait ressentir et à aucun moment, pour être honnête, hein, et c'est pas pour plaire à telle ou telle personne, on m'a jamais rappelé que j'étais pas de tel pays, que je venais plutôt d'un autre. J'ai été imam partout où j'ai été jusqu'à maintenant. Ça m'arrive même de quand je suis de repos à la mosquée d'Ivry le vendredi. Souvent, je pars en retard à la prière pour pas que l'imam me voie et qu'il enlève la djellaba et qu'il me demande de diriger la prière. Donc j'ai jamais eu de problème de légitimité de ce point de vue-là, et la question ne s'est jamais posée à moi. J'ai été imam à Bordeaux pendant je ne sais combien de temps, dans la petite région bordelaise, Pessac, Mérignac et compagnie, jusqu'à chez Noël Maner, pour vous dire, à Bègle, c'est Cyrano de Bergerac. J'ai été imam à Tarbes, j'ai été imam à Pau, j'ai été imam pour... J'ai parcouru la France dans ma...
Sans être confronté à...
Sans jamais, pas une seule fois.
À ce que décrit Michael Prévost dans son article.
Pas une seule fois. Alors, est-ce que les gens le disent derrière? J'en sais rien. Mais devant moi, on ne me l'a jamais dit. Peut-être que parce que personne n'oserait le dire devant moi, parce que je ne vois pas en quoi il pourrait me le dire. Parce que cela supposerait qu'il saurait des choses que l'on ne saurait pas parce qu'on n'est pas... Donc, j'ai jamais eu à souffrir de cela. Je vois mon frère et ami Cheikh Minta dans le conseil théologique musulman de France où on est tous les deux. Moi je suis le secrétaire général et la question ne s'est jamais posée de voir si Cheikh Minta est noir ou pas. On sait tous des arabophones, des arabisants et on fait nos échanges sans aucun problème. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire en fait Cheikh Minta et c'est parce qu'il est noir ou Mohammed est noir, la question, enfin je sais pas, il me corrigera si...
C'est plus subtil en général.
Ben, en tout cas, on n'est peut-être pas idiot pour ne pas le comprendre, mais ça ne s'est jamais présenté à moi. Moi je vous le dis en toute honnêteté, et j'ai jamais eu personne qui m'a dit... pourquoi lui, il est devant...
En fait aussi, l'autre légitimité dont parlait Michael Prévost, c'est... Ouais. Donc il y a une première légitimité qui est à l'intérieur des communautés musulmanes en Europe francophone, mais aussi qui, des figures en fait, de l'islam européen qui arrivent à émerger dans le contexte européen puissent bénéficier d'une légitimité à l'égard en fait, des autres communautés musulmanes qui sont en dehors de l'Europe. En fait. Parce que souvent, vous avez par exemple des figures de savants, d'érudits qui sont en dehors de l'Europe, par exemple qui sont au Maghreb ou en Asie, etc., et qui bénéficient en fait, d'une reconnaissance auprès de certains fidèles musulmans en Europe. Est-ce que l'inverse, en fait, lui, il remet en cause en fait, l'image inverse aussi.
C'est pas si systématique que cela. Je vais vous donner un exemple qui prouve le contraire de ce qu'il dit. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le théologien musulman le plus suivi et le plus écouté dans le monde arabe s'appelle Adnan Ibrahim. Il a fait des émissions dont les tweets ont dépassé le milliard d'échanges. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'islam contemporain.
C'est ça. Il y a une chaîne YouTube aussi.
Au-delà de la chaîne YouTube, mais son émission Sahwa. Ce qui se passe en Arabie Saoudite, je pense que cette émission y est pour quelque chose, outre ce que font les bourreaux de Khashoggi, c'est autre chose. Mais il y a de ce point de vue-là quelque chose qui c'est pas aussi systématique que cela. Et puis il faut pas. Enfin, Madame disait que on enseigne que des livres d'arabes. Je pense que de savants arabes. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact. C'est surtout la manière dont on présente les choses. Mais la plupart des savants dont les œuvres sont étudiées, notamment en Maqas, c'est pour ce qu'il parlait de finalité de la charia. Hein. C'est des occidentaux.
Je parlais de fiqh, moi.
Bah, même en fiqh.
C'est les quatre écoles.
Alors, les quatre écoles, il y a des savants qui sont Abu Hanif et d'autres qui ne sont pas forcément des Arabes. Ce serait un autre débat, parce qu'il y a un débat, est-ce qu'il est né à Bagdad ou ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette vision arabo-centrée, et c'est une vision que certains, aujourd'hui, par méconnaissance et par ignorance, ont du droit musulman, ou même du savoir islamique en général, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Les spécialistes des traditions du prophète, il n'y en a pas un seul arabe, à part Malik ibn Anas et Ahmed ibn Hanbal. Le reste, c'est de Naïsabour, etc. Vous entendez parler de Bukhari, c'est pas un arabe. Birdizba, c'est pas arabe, hein, c'est un ouzbek. Muslim ibn al-Hajjaj, al-Naysaburi, Abu Abdullah al-Hakim, al-Naysaburi, al-Tirmidhi. Bref, c'est tous des gens qui viennent de ce qu'on appelle en arabe Mawla al-Nahr. C'est des choses qui sont très connues. Alors aujourd'hui, c'est vrai que...
Mais en fait, ce qu'elle disait, c'est parce que ces figures-là aussi ont été arabisées à un moment donné, donc qu'ils ont été récupérés dans le giron arabe, si on peut dire.
Vous savez, il y a un proverbe...
Et en tout cas, dans la manière dont on va les présenter aussi dans les écoles.
Il y a un proverbe africain qui dit « Un long séjour dans l'eau ne transforme jamais un tronc d'arbre en caïman. » Donc c'est pas parce que l'on prétend quelque chose que forcément celle-ci est vraie. Mais si vous regardez... Même maintenant, à l'heure où je vous parle, cher Mintin pourra vous le dire, à Médine, les plus grands spécialistes des traditions du prophète et des lectures du Coran sont des Indiens. Il se trouve qu'aujourd'hui, le dernier plus grand savant de hadith, c'est Waliullah Shah al-Dahlawi, c'est un Indien. Donc je pourrais vous multiplier les exemples comme cela. Mais encore une fois, moi j'appelle toujours les gens à faire preuve de prudence. C'est pas parce que l'on ne sait pas que les choses n'existent pas. Il en existe encore aujourd'hui des savants que des gens ignorent. Ici, aujourd'hui, par exemple, vous allez au Yémen, les savants yéménites, notamment de la région de Hadramaut, sont tous des gens qui sont les disciples de Comoriens. Mais les Comoriens eux-mêmes, je vois un jeune Comorien là, ils ne les connaissent pas. Parce qu'ils ont eu une carrière internationale qui leur a permis d'avoir des décorations internationales. Mais si vous prenez Al-Habib Omar ibn Soumaït, c'est le maître de tous les savants que vous avez dans la région de Hadramaut. Alors, tu vois des Comoriens aujourd'hui qui vont apprendre là-bas. Moi, je m'amuse à leur dire que, mais en fait, ce que vous allez apprendre là-bas, c'est ce qu'enseignent les élèves de quelqu'un comme mon père. Mais parce que, comme dit le proverbe en français, à bon mentir, qui vient de loin est tout nouveau, tout beau, on a tendance à ne pas considérer, et je pense que c'est ce dont on souffre. On a tendance à ne pas considérer Cheikh Minta parce qu'on le voit au quotidien. Comme on dit en arabe, mutribul hayla yotrib. Le chanteur du coin, le musicien du coin n'est pas de personne. Et moi, j'ai souvent l'habitude de demander de dire à mes élèves que j'entends parler des grands savants. Moi, je leur demande sur quelle base on parle des grands savants. Est-ce parce qu'ils sont lourds, ils pèsent plus, ils sont gros? Ou parce qu'ils ont des diplômes ou des shahadats qu'on a pas. Parce que je leur dis, si c'est des diplômes, à moins qu'ils soient diplômés de Mars, ce qu'ils ont, on les a en fait. S'ils écrivent des livres, Cheikh Minta en a écrit, j'en ai écrit, et il a été à l'université de Médine, mais les personnes qui sont de la même génération que lui vont venir en France et on va les aduler, mais lui, on va le considérer, pas parce qu'il est noir, mais juste parce qu'il est du coin. Et ça... c'est une question qui s'est posée. Alors, peut-être que dans la tête de certains écervelés, et ça, vous savez, l'idiotie n'a ni couleur ni rien du tout, et quand on veut blanchir un idiot, on perd de sa salive, comme on dit, on n'y peut rien de ce point de vue-là. Et ces jeunes, on y est confrontés au quotidien. Donc, je ne pense pas que ce soit... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Et pour finir, le cher a parlé tout à l'heure de radio... J'ai fait des émissions de radio France Maghreb 2, Beurre FM. Pour tout vous dire, c'est pour le bien de ma famille, pour l'équilibre de ma famille, que j'ai arrêté. Mais les demandes, c'est tout simplement démentiel. Il y a Ousmane Timera que j'ai vu tout à l'heure. On nous demande partout. il s'est fait boycotter dernièrement, mais ce n'est pas mon cas à moi, du moins pour l'instant.
C'était de sa faute.
Oui, il l'a cherché. On demande, il y a des demandes de conférences, en fait, qui sont quotidiennes, et c'est toutes les minutes, il y a des questions. J'ai mes élèves sur ma page Facebook et le site, ils ont plus de 100 000 questions sans réponse, parce que il faudrait y consacrer une vie pour pouvoir répondre aux questions. Et moi, en fait, je suis sur Facebook sans, malgré moi, je n'ai jamais ouvert de compte Facebook, etc. C'est eux qui l'ont fait. Tout ceci pour vous dire que je pense qu'il y a une part d'ignorance, c'est vrai, je partage une part de ce que madame a dit, mais je ne la situerai pas forcément au niveau du fait que je sois noir ou arabe. Et d'ailleurs, les Comoriens, j'aime beaucoup les embêter, parce que eux, c'est les non-alignés. Ils ne sont ni arabes, ni africains. Et eux, ils se situent, d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait une association qui s'appelait Afaïka, et à la fin, ça se termine, ou Faïka, je ne sais pas, la Faïaka, ou je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se dit. C'est les Comoriens. Je veux dire, mais attendez, les Comoriens, vous faites partie de l'Afrique. Pourquoi c'est les Comoriens? En fait, c'est parce que la Faïka, ça ne devrait pas suffire comme appellation. Mais vous allez voir que les Comoriens, quand ils parlent des Africains de l'autre continent, ils les appellent Gada Gada. Et Gada Gada, on appelle ça des... Pour ceux qui
c'est pas un
connaissent
gâteau,
pas les non, pas du tout. C'est très péjoratif. Pour ceux qui ne connaissent pas les langues africaines, il y a des phénomènes qui distinguent les langues africaines qu'on appelle des idéophones. Il y a un monsieur qui s'appelle Dumestre, dont vous pouvez lire les œuvres là-dessus. Et en fait, ça consiste à prendre un son et à signifier quelque chose. Donc par exemple, Gada, c'est quand tu fais un bruit, comme ça. Donc ils disent Gada, par exemple, ça veut dire un bruit. Donc Gada, Gada, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, dont la langue est si incompréhensible que quand il parle, il dit Gada, Gada. Donc pour eux, tous les Africains non comoriens sont des Gada, Gada. Donc aujourd'hui, on va se marier. Ah, une fille, elle s'est mariée avec un Gada. Comme aujourd'hui, on dit que quelqu'un, c'est une Gada ou je ne sais quoi.
C'est encore pire en langue perse, Gada.
Je ne savais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée-là. Donc, on ne sait pas où se situer. Et moi, je leur dis souvent, vous savez, vous êtes arabe, vous êtes noir, vous n'avez pas à souffrir de ce que vous êtes, parce qu'il y a des études qui ont été faites, et je m'arrêterai là-dessus. En 2003, une thèse de doctorat a été soutenue par un monsieur qui s'appelle Jacques Chiaroni à l'Université de Provence, sur le jeune homme du Comorien, de Marseille, essentiellement. Et les études ont montré que plus de 30% de la population comorienne de Marseille avait un jeune homme arabe. Et ce qui veut dire que inéluctablement, la population est arabisée. Mais donc, quand les Arabes font des bêtises, ils disent qu'on ne sont pas des Arabes. Et quand les Noirs font des bêtises, vous ne sommes pas des Noirs. Quand je vois M. le gouverneur qui est là, il doit me regarder avec les grands yeux. Mais finalement, vous êtes tous. Aujourd'hui, dire que moi je m'excuse parce que je vais être un peu en désaccord avec ce que madame a dit. Je pense qu'aujourd'hui, définir que je suis comme ça, les ceci comme cela, je pense que scientifiquement, ce serait difficile
donc,
à tenir.
On va continuer. Donc, c'est pas aussi, on va dire, blanc que. C'est pas aussi blanc que ça.
Non.
Si, au lieu de dire, c'est pas aussi noir que ça.
Non, c'est gris. Dire,
c'est pas aussi blanc
c'est
que
gris.
Ça. Et donc, on va demander, en fait, du coup, à Mohamed Saïd Assoumani, est-ce que dans le cadre de votre, notamment l'exercice de l'aumônerie, est-ce que les personnes que vous voyez, ils sont parfois surpris de vous voir arriver? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Oui, moi je me situe entre les deux intervenants. Hein. C'est que, en réalité, c'est normal qu'il y ait certains mépris, en tout cas envers le noir qui émerge dans les études musulmanes ou devient responsable. Moi, je l'ai senti un jour, sans le sentir, mais à travers un converti, je crois. Quand je suis allé m'installer à Lille, et j'ai rencontré un ami à nous, je rappelle, tu peux le connaître, Samir.
Comme rien aussi.
Donc, il m'invite chez lui.
Comme rien.
Je viens d'arriver, et dans sa maison, il y avait un converti. Et pour moi, il était arabe, avec une barbe jusqu'à là,
tous réveillés. Il est fatigué.
Il était l'heure d'aller faire sa danse. Donc on part à la mosquée tous les trois. Moi j'étais en mode civil et mon ami aussi était en mode civil. Mais le français converti, il était en mode mosquée. Donc on arrive à la mosquée, la prière était déjà finie. Il fallait organiser notre prière derrière, à trois. Donc on se regarde, moi et Samir, qui doit diriger. Parce que je suis avec Mohamed Bajratiel, donc là, les gens se respectent. Bah, c'est toi, c'est toi. Et puisque lui, il est blanc, il a la barbe, il a tout le
bagage,
l'apparence.
Et il nous dirige la prière. Et trois mois après, je suis recruté pour aller enseigner les sciences islamiques à l'Institut Avicenne. Je commence par interroger un peu le public, voir leur niveau, parce que c'est parfois hétérogène comme niveau. Et je commence par faire réciter les gens la Sourate Al-Fatiha. Tout le monde récitait avec des erreurs. Je tombe sur un visage qui me dit quelque chose et qui n'a pas su réciter la Fatiha. Mais ce visage-là me dit quelque chose. Je n'ai pas tout à fait la connexion. Et après la pause, je me suis rendu compte que c'est le monsieur qui m'a dirigé. La prière, trois mois derrière le croyez-moi, il a pas fini le cours et depuis, il n'est plus revenu dans ma classe. Donc ça, je l'ai constaté d'une façon un peu sournoise. Et puis, c'est là où, c'est de cette école où on m'a référé pour me demander d'aller faire tenir les prières de vendredi dans une mosquée à Lille. Donc je tenais la prière et je voyais qu'il y avait plus d'Arabes, plus de Français convertis que de Noirs. Bon, là, il n'y avait aucun Comorien. Et donc mes frères sénégalais, maliens, ils étaient très contents. Ils disent, ah, c'est cool, ils sont très contents de voir un Noir faire le prière. Ça veut dire qu'eux-mêmes, si c'est eux qui maîtrisaient la mosquée, personne, un Arabe ne viendrait jamais réaliser la prière. Donc c'est normal.
Ça se fait à Montreuil, hein, pour le savoir.
Oui. Et donc, moi un jour, le responsable vient me dire que il y a des gens qui se sont demandés, mais pourquoi c'est tout le temps le noir qui fait la prière, qui lit la prière. Moi je leur ai dit, mais j'ai pas entendu ça. Je leur ai dit, tant que la personne a les compétences, il va diriger la prière. Mais se trouvait que c'est la génération précédente, ce n'est pas les jeunes. Les jeunes, ils ont dépassé ça. Ils ont dépassé totalement. Ils veulent quelqu'un qui peut leur apporter une vision dans leur vie actuelle en utilisant, en maniant les deux langues, le français et l'arabe, dans une façon de les ramener en tout cas vers le monde dans lequel le monde évolue. Donc moi, je n'ai jamais vraiment senti, on ne m'a jamais confronté cela. Et en prison, non plus. Je vais en prison, je vois tout le monde. C'est des gens très, très. Parfois, ils sont dans des difficultés, mais il y en a qui sont très demandeurs et j'ai jamais entendu ça.
D'accord. Et Madame Maïma Dramé, est-ce que dans votre cas aussi, donc je vous pose la même question, cette question de la légitimité, est-ce que.
Pour ma part, je ne sais pas si je suis un petit peu plus foncée que M. Barjafil. Donc, malheureusement, on a été, pour ma part, beaucoup confrontée à des problèmes par rapport à la couleur de peau. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. On peut donner beaucoup d'exemples pour lesquels, quand on se devait, donc on a étudié un petit, dans la même école, d'enseigner quel que soit le Coran ou la langue arabe, ou quand on arrive, on nous regarde, soit on est la femme de ménage, soit on est venu pour étudier, mais c'est jamais le professeur. Donc c'est toujours où ils sont toujours stupéfaits qu'un Africain noir, entre guillemets, puisse parler l'arabe ou connaisse le Coran. Ou pour eux, en fait, comme je ne sais plus quel intervenant dit ce matin, si l'Africain, en tout cas, applique plus ou moins sa religion, en tout cas l'Africain noir, c'est un petit peu quelque chose de folklorique pour eux. Donc il n'y a pas de légitimité à part entière du fait qu'on ne soit pas arabe. Le problème de la France, je parle de la France en tant que telle, c'est qu'on pour ma part, je m'aperçois que, effectivement, en fait, c'est l'islam de France, entre guillemets, l'islam en France, est un islam vraiment arabisé. Où, c'est un islam pour lequel, en fait, on le regarde à travers les Arabes. Donc, pour notre part, par exemple, moi qui viens d'origine du Sénégal, on est toujours étonné, puisqu'au Sénégal, il y a aussi bien des chrétiens que des musulmans, on est toujours étonné que, ah, bah, tiens, bah, il y a des grands récitateurs de Coran au Sénégal, où il y a beaucoup de personnes qui ont étudié le fiqh, etc. et autres. Malheureusement, on le voit également dans les mosquées. Donc, dans les mosquées, en tout cas, du côté des femmes, on le peut voir beaucoup, du côté des femmes, où il y a une certaine discrimination qui est un petit peu subtile, dans le sens où les Arabes sont toujours devant et les femmes africaines sont toujours derrière. Et il y a toujours une espèce de combat qui m'a toujours interpellée, raison pour laquelle j'ai beaucoup milité dans ce sens-là, où on mettait en avant que les femmes, par exemple, africaines, on sentait l'odeur. C'est pas quelque chose d'anecdotique où on sentait, mais parce que c'était en fait c'est l'encens, c'est le chouraï qu'on met, que pour justement purifier la maison, pour autre chose, donc quelque chose de pur pour nous, qu'on met justement pour aller à la mosquée, pour eux était quelque chose qui sentait mauvais. Donc on était toujours relégués en fait, plus ou moins
à
l'intérieur de la mosquée. Et souvent, donc nous en tout cas, en tant qu'Africains noirs, on apprend l'islam sans connaître l'islam, depuis qu'on est petit. Nos parents, on nous apprend pas, par exemple, Salat Laïcha, allez, c'est 4 à 4. Dès qu'on est petit, c'est les 7 directs. On nous explique pas comment, ni quoi que ce soit. Et dès qu'on est petit, on nous apprend également à aller à la mosquée directement. Donc quand c'est le ramadan, bah, les Africains, il y a beaucoup d'enfants dans la mosquée, donc c'était toujours, les petits noirs, ils sont nombreux, ils font beaucoup d'enfants, etc. Or que pour nous, les parents, c'était de la manière dont nous apprendre de l'islam, aller à la mosquée, puisque c'était comme ça qu'ils allaient dans les daras depuis qu'ils étaient petits, aller dans les daras et autre chose. Et on sent malheureusement que des petites anecdotes comme Mdella pouvait le dire auparavant, l'islam se pratique différemment en fait, que ce soit en Afrique subsaharienne ou en Afrique maghrébine, donc de là parce que la culture est différente bien entendu. Mais par exemple, des questions qui se posent beaucoup, par exemple sur la question de la sexualité ou des menstrues ou autre chose, où on a beaucoup qui a beaucoup de tabous, par exemple au Maghreb, et qui est par exemple au Sénégal, qui est totalement différent avec les Laobé ou autre chose, où c'est beaucoup plus ouvert, mais où on le voit beaucoup, beaucoup dans la pratique, où par exemple, comme il disait, il faut se cacher quand on a les menstrues pendant les règles, ou se cacher du grand frère qui décide ou d'autres choses, alors que en Afrique, quelle que soit la position, l'aîné, quel qu'il soit homme ou femme, eh ben, on doit le respecter, même si c'est une femme. Il y a ce problème de légitimité, malheureusement, auquel on est confronté, qui perdure. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai commencé l'USH avant Mandela, j'avais, par l'intermédiaire de mon cher cousin Ousmane, avec qui m'avait amené...
C'est lui le coupable
qui m'avait amené... qui me traînait dans ses pattes à l'USH. J'ai découvert l'USH grâce à lui d'ailleurs. Je pouvais pas rentrer parce que j'étais pas à l'époque, il fallait être majeur. Donc on m'a fait une exception, je suis rentrée quand j'ai eu 17 ans. On était les seuls noirs, faut dire ce qui est. On était vraiment les seuls noirs, à part des Marocains noirs, Sahouia, qui ont le teint basané, mais qui sont considérés comme ou les chlas, qui sont considérés comme arabes. Mais on a un très bon professeur, cher Oustad K, qui est africain peul, pour lequel en fait on nous voit pas en fait.
Et c'est prof d'arabe, il faut le dire.
Prof d'arabe, machallah.
S'il est peul, c'est quelqu'un de bien.
Le sonique, on va se révolter là.
Le serrer.
Voilà. Donc, du coup. Pour ma part, j'ai eu un mari qui a été imam depuis ses âges de 13 ans à la mosquée Bilal aussi, également ici. Pour lequel, en fait, se mettre en avant, en tout cas avoir sa légitimité en tant qu'imam, a été très difficile. Et je l'ai vécu au quotidien, non seulement aussi même à travers mes enfants, ou quand on entend ma fille, « Ah, Belkis, ça parle arabe, mais comment ça se fait ?» on a essayé d'apprendre nos enfants aussi bien donc le français que le Wolof, le Soninké ou l'arabe, puisque ça fait partie des bases. Mais on a, il y a toujours cet, cet étonnement où quand par exemple le mari doit aller faire la prière, on ne le mettra pas en avant. On mettra quelqu'un parce que, bon, en général, l'Africain, en tout cas, pour la part le Sénégalais, est habillé toujours en beau gosse. Il n'y a pas de camis, il n'y a pas de, de autre chose. On les mettrait pas, on les mettra pas en avant.
Camis beau.
Voilà. On les mettra pas. On les met pas en avant. Parce que malheureusement, bon, il y a beaucoup d'islam de l'apparence. On les met pas en avant et jusqu'à qu'on dise, mais tu sais que lui, il a 4 lectures de Coran. Ah bon, oui, tu l'as pas fait passer. Il a beaucoup plus de science que toi et autre chose. Et on est tout le temps dans ce, malheureusement, dans ce, de, dans son conflit là. Donc moi, je le vois aussi bien à travers donc l'imama de mon époux et de moi-même qui j'ai été amenée donc par sa qualification d'imama d'être derrière dans le rayon des femmes, où il y a eu tout le temps en fait cette légitimité qui était difficile à avoir, où lui qui parlait tunisien, c'est pas grave, il est noir, mais ça va, il sait parler tunisien, donc ça va quoi, donc ça passe. Et le aujourd'hui, même quand on va poser une question de fiqh ou autre chose, bah, il fallait poser on lui posait la question, il avait donné un avis, mais on allait poser la question encore à un arabe, parce que peut-être qu'il a plus de légitimité. Et c'est cette petite chose, alors je ne dis pas que c'est une généralisation, mais c'est quelque chose qui est très gênant, puisque je dis que, enfin, pour moi, pour avoir fait des études sociologiques, je me pose la question, est-ce que c'est l'effet, donc l'islam de France ou en France, je ne sais pas dans quel où se poser. Je me dis que c'est très différent dans le sens où on voit l'islam à travers les arabes. Effectivement, il y a beaucoup de Maghrébins en France, qui plus est sont des Africains pour moi, et on le voit beaucoup, beaucoup à travers les Arabes. Mais comme je dis aujourd'hui, beaucoup de problèmes de l'islam seraient réglés si on regardait, tout simplement, on prendrait comme exemple, bon, je ne prends pas pour mon pays, mais si on regarde le Sénégal, où il y a on vit très bien avec les musulmans et les chrétiens, où ça ne pose aucun problème. Et aller simplement en Malaisie, où ça ne pose aucun problème. Où ce problème de culture, qu'on parle de soumission de la femme, d'obéissance ou autre chose, n'existe pas. Pour nous, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est plus un problème culturel qu'un problème d'islam. Et malheureusement...
Ça existe sous d'autres formes.
Ça existe, ouais.
C'est patriarcat.
Pas pareil, pas pareil. comment dirais-je,
pas
pardon. C'est très différent. Pour avoir voyagé, par exemple, en Égypte, par exemple, j'étais très 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 étonnée la fraternité qu'ils pouvaient avoir, puisque là-bas, la plupart du temps, c'est des étudiants étrangers ou autre chose, ou pour avoir été au Maroc ou autre chose. C'est vraiment, la vision de l'islam est très différente, vraiment. En France, il y a une particularité qui pose...
Il y a une dose de culturelle qui est très très forte.
Après, je dis bien, je ne généralise pas, c'est un ressenti qui est pour ma part. Ça peut être différent pour d'autres. C'est un ressenti que j'ai
Oui, c'est un témoignage qui est important. Voilà.
Donc, je mets en avant.
Oui, qui met en avant une réalité vécue.
Voilà.
Et donc, pour terminer en fait ce tour de table et après ouvrir les questions, là, on va poser la même question à Ahmed Ndjegen. Donc, si vous avez aussi par rapport à cette question de la légitimité, et notamment dans le cadre de vos émissions de radio ou même de l'imama dans l'exercice.
Oui, donc... En fait, la question de la légitimité se pose lorsqu'on ne vous connaît pas. Mais dès lors qu'on vous connaît, maintenant, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de blocage. Il est bien évident que quand j'avais commencé à faire mes émissions en 2000, les gens ne me connaissaient pas. Donc, ceux qui parlaient du 11e signe de la fin des temps, c'était par rapport à ça. Mais après... Eh bien, ils sont devenus des amis. Donc, ils m'ont invité partout, faire des causeries, des conférences. Donc, ça ne se posait plus, parce qu'on a appris à se connaître. C'est la question de l'altérité qui se pose. Souvent, l'autre, c'est l'inconnu. L'autre, il fait peur. L'autre, c'est peut-être l'enfer, en quelque sorte. Et donc, je crois que c'est pour ça que c'est très important d'avoir... Cet événement, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il pourrait se passer beaucoup de choses si des événements comme ça se produisent. C'est bien aujourd'hui ici à Paris, mais peut-être un autre jour dans une autre ville. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà il y a 3 ans, on avait participé à un colloque sur l'altérité avec Sophie Bava au Maroc. Rabat, c'était organisé par Al-Muwafaqa,
on est situé au Kimenu. Donc voilà, donc il y avait toutes les religions représentées, c'était très enrichissant. Mais tout à l'heure, je vais parler de cette mosquée là où on nous avait interdit, ils avaient refusé qu'on y fasse, qu'on y organise le Maulid. L'imam, le lendemain, il avait fait une khutbah sur Bida. Mais entre-temps, il n'était plus imam. Il avait repris ses études. Et là, il prépare une thèse à l'université d'Aix-Marseille. Pour vous dire le rôle de l'université. Et il y a 2 mois, il m'appelle, il me dit, « Cheikh Ahmed, il paraît qu'on va inaugurer la mosquée de Masalikul Jinan à Dakar. La mosquée des Mourides. Il faut que tu m'invites, il faut que je vienne. » Lui qui était contre tout ce qui... Mais là, il était sérieux. Ah, tu m'invites, si tu ne m'invites pas, je ne serai pas content. Pourquoi? Peut-être l'université est passée par là. Peut-être que parce qu'il a pu apprendre à réfléchir par rapport au texte, puisqu'il y a le texte, il y a les contextes, il y a surtout les prétextes dont il faut se méfier. Il y en a beaucoup qui tombent sur des prétextes parce que... voilà. Alors, je lui dis que, bien sûr... C'est vrai que moi, je suis Tidjane, je ne suis pas Mauride, mais quand l'inauguration sera faite, eh bien, tu seras invité. Mais c'est très bien, pour ce qu'on a appris à connaître l'autre, à composer avec l'autre. C'est ça qu'il nous faut. L'espace, on est là, nous partageons l'espace, nous partageons un temps donné. Ce petit temps, ça ne va pas être le petit temps que nous partageons en descendant, en prenant l'ascenseur, les escaliers, etc., etc. Si on n'apprend pas à vivre avec intelligence, eh bien, il y aura toujours des conflits. On ne sera jamais pareil. Même si nous avons la même foi, le même type de pratique, on ne sera jamais pareil. Donc, et l'islam aussi nous a appris à être intelligent. Parce qu'on a vu ce que Al-Ghazali il a fait par rapport à l'islam. Donc, notre sœur, c'était très intéressant son intervention, mais mon frère Al-Baraji, Bajrafil, il avait fait une intervention il y a 2 semaines parce qu'on était invités ensemble à l'Institut des cultures de l'islam avec le mouvement de l'AMIF. Donc lui aussi, il avait cette même question pour revenir sur les textes a été posée. Il avait fait une belle intervention là-dessus parce que est-ce que c'est à nous de juger Al-Nawawi, etc., etc. Mais c'est un travail intellectuel, bien sûr. Et par rapport à ce travail intellectuel, il pourra se passer des choses. Mais lui, il a fait ce qu'il avait fait. Ses savants, ils avaient fait ce qu'ils avaient fait. Mais maintenant, nous aussi, par rapport à notre contexte, nous avons du travail. Mais surtout, si on n'apprend pas à se connaître et à se respecter, ça va être toujours difficile. Parce que dans toutes les cultures, la notion de l'autre existe. En arabe, ce matin, on en a parlé. Al-Ajab, l'autre. Ici en France, mon cousin de province, parce qu'il n'est pas parisien. Il a parlé de Gada-Gada. Mais nous aussi, les Sénégalais, on a notre Gada-Gada.
Les
Niaks. Tous ceux qui ne sont pas Wolof, c'est des Niaks. Les Niaks. Donc, les Africains qui ne sont pas Wolof, c'est les Niaks. Donc,
les Latokats.
Voilà. Les Latokats. Hein?
Donc, c'est extra-ouest africain. Ouais, les autres Africains, on les appelle pas Niaks. Les Niaks, c'est le centre de ces
Voilà. Donc, ça veut dire que. Donc, là, on parle de l'autre. Donc, on décrit l'autre d'une certaine manière. Donc, la question c'est de savoir, est-ce que la religion nous permet d'être intelligent pour pouvoir partager l'espace avec cette autre personne, cet autre individu qui est différent de moi, qui est différent, qui a une pratique différente de la mienne, ou est-ce que la religion est incapable de le faire? La réponse, moi je dirais que c'est oui. Donc, l'université a un rôle très important. L'université a un rôle très important, aussi important que le rôle que pourraient jouer l'imam à la mosquée, les émissions religieuses, etc., etc. Parce que l'exemple de cet ami-là qui était imam, maintenant il n'est plus imam, il prépare une thèse, etc., mais c'est comme si, il regardait vers le nord, maintenant il regarde vers le sud. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'université. Et donc, la notion de la légitimité ne s'impose pas. C'est-à-dire tout un chacun devrait apprendre à être intelligent pour pouvoir partager en certains moments un petit lopin de terre avec l'autre, même si l'autre est différent de moi, même s'il parle une autre langue, etc. etc. Pourquoi? Parce que la diversité et la différence, c'est un projet divin. C'est Dieu qui a voulu que tout le monde soit différent. Si Dieu l'avait voulu, le Coran, dans le texte, tout le monde serait pareil. Mais il a voulu que l'on soit différent. Donc, si tu veux manifester ta foi par rapport à Dieu et t'appuyer sur cette foi pour discriminer l'autre, eh bien, voilà, il y a un problème. Et même, il y a un hadith qui dit que pour que ta foi soit valable, valide, il faut que tu respectes le voisin, donc l'autre. Et donc ça aussi, c'est un élément, le fait de respecter l'autre, de faire eh bien, un travail de considération vis-à-vis de l'autre, eh bien, qu'il soit pareil ou différent de moi, ça fait partie des valeurs, de mes valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui nous permettent de pouvoir. Il y a deux jours, j'ai participé à une soirée interreligieuse à Marseille, parce que vous vous rappelez tous de ces immeubles qui sont effondrés au centre de Marseille. Parmi eux, il y avait un Sénégalais. Donc j'ai participé à une soirée interreligieuse. Il y avait un pasteur, un prêtre, etc., etc., un imam. Mais toute la ville était contente. Mais au-delà de ça aussi, nous participons à des journées ensemble avec Marie. Mais j'ai fait une conférence avec un prêtre à Toulon. Lui, il a parlé de Marie par rapport à la Bible. Moi, j'ai parlé de Marie par rapport au Coran. Mais Marie, c'est une personnalité plus qu'importante pour un musulman. Parce qu'elle incarne des valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont nos valeurs. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on a toujours, eh bien, il y a toujours moyen de composer avec l'autre. D'accord. Bon,
donc voilà. Oui, donc il faut, voilà, donc il faut... Ah, merci.